Septième partie. Sur la corde raide. Chapitre 25. Si l'on m'avait demandé, fin 2010, à quel endroit du Moyen-Orient allait éclater la prochaine grande crise, je n'aurais eu que l'embarras du choix. Il y avait bien sûr l'Irak, où, malgré nos avancées, nous avions souvent l'impression qu'il aurait suffi d'un attentat sur un marché ou d'un raid de miliciens pour que le chaos reprenne ses droits. Les sanctions internationales que nous avions imposées à l'Iran en réponse à son programme nucléaire avaient commencé à produire leurs effets, et la moindre bravade ou mesure désespérée du régime pouvait déclencher une confrontation potentiellement incontrôlable. Le Yémen, une des grandes tragédies de ce monde, était devenu le quartier général d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA, la branche la plus active et meurtrière de l'organisation terroriste. Et en plus de tout cela, il y avait les quelques centaines de kilomètres de frontières sinueuses et contestées qui séparaient Israël des territoires palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mon gouvernement était loin d'être le premier à perdre le sommeil à cause de ces parcelles de terrain. Le conflit opposant Arabes et Juifs était une plaie ouverte dans la région depuis presque un siècle, précisément depuis la déclaration Balfour de 1917, par laquelle les Britanniques, qui occupaient alors la Palestine, s'étaient engagés à créer un foyer national pour le peuple juif dans une région très majoritairement arabe. Pendant les deux décennies suivantes, les promoteurs du sionisme organisèrent une migration de grande ampleur en Palestine et entraînèrent des forces armées pour défendre leurs colonies. En 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans l'ombre de l'Holocauste, les Nations Unies approuvèrent un plan de partage créant deux États souverains, l'un juif et l'autre arabe, et plaçant Jérusalem, ville sainte pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, sous contrôle international. Les sionistes l'approuvèrent, mais les Arabes de Palestine, de même que les nations arabes environnantes qui venaient tout juste de s'émanciper des puissances coloniales, s'y opposèrent vigoureusement. Lorsque la Grande-Bretagne se retira, les deux camps basculèrent rapidement dans la guerre, et la victoire autoproclamée des milices juives en 1948 marqua la naissance officielle de l'État d'Israël. Pour le peuple juif, c'était un rêve qui devenait réalité, un État rien qu'à lui, dans son berceau historique, après des siècles d'exil et de persécutions religieuses culminant dans les récentes atrocités de la Shoah. Mais pour les 700 000 Arabes de Palestine qui se retrouvaient apatrides et chassés de leurs terres, ces mêmes événements s'inscriraient dans ce qui fut nommé la Nakba, la catastrophe. Pendant 30 ans, Israël allait enchaîner les affrontements avec ses voisins arabes, le plus lourd de conséquences étant la guerre des six jours en 1967, durant laquelle Israël mit en déroute la coalition formée par l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, prenant au passage la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie, la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï à l'Égypte et le plateau du Golan à la Syrie. Le souvenir de ces pertes, de même que l'humiliation qui s'ensuivit, devint un des aspects centraux du nationalisme arabe, et le soutien à la cause palestinienne, un principe directeur de la politique étrangère des pays arabes. Les Palestiniens qui vivaient dans les territoires occupés, principalement dans des camps de réfugiés, étaient désormais gouvernés par l'armée de défense d'Israël, Tsahal, qui restreignait drastiquement leurs déplacements et leurs activités économiques, suscitant des appels à la résistance armée et la montée en puissance de l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP. Les politiciens arabes dénonçaient régulièrement Israël, souvent dans des termes ouvertement antisémites, et la majorité des gouvernements de la région voyaient dans le dirigeant de l'OLP, Yasser Arafat, un combattant de la liberté, quand bien même son organisation et ses affiliés contribuaient à l'escalade de la violence et commettaient des attentats sanglants contre des civils. Dans cette histoire, les États-Unis n'étaient pas restés sans rien faire. Bien que les Juifs américains aient souffert de discrimination pendant des générations dans leur propre pays, ils avaient, comme ceux qui avaient émigré en Israël, une langue, des coutumes et une apparence qui les rapprochaient de leurs frères chrétiens, et l'opinion publique leur était tout de même bien plus favorable qu'aux Arabes. Harry Truman avait été, dès 1948, le premier chef d'État étranger à reconnaître officiellement l'existence d'Israël, et la communauté juive américaine enjoignait au gouvernement d'apporter son aide à la jeune nation. Dans la lutte d'influence que se livraient les deux superpuissances de la guerre froide au Moyen-Orient, les États-Unis devinrent le principal protecteur d'Israël, et du même coup, les problèmes entre Israël et ses voisins devinrent aussi les problèmes des États-Unis. Depuis lors, presque tous les présidents avaient tenté de résoudre le conflit israélo-palestinien, avec un succès variable. Les accords de Camp David, avancée historique négociée en 1978 par Jimmy Carter, engendrèrent une paix durable entre Israël et l'Égypte et replacèrent le Sinaï sous contrôle égyptien. Ce traité, pour lequel le premier ministre israélien Menachem Begin et le président égyptien Anwar el Sadat reçurent le prix Nobel de la paix, éloigna un peu plus l'Égypte de l'orbite soviétique et fit des deux pays des partenaires essentiels des États-Unis sur les questions de sécurité, ainsi que les deux plus importants bénéficiaires de l'aide économique et militaire américaine, loin devant tous les autres. Mais la question palestinienne demeurait. 15 ans plus tard, alors que la guerre froide était terminée et l'influence américaine à son zénith, Bill Clinton réunit Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat pour la signature du premier accord d'Oslo. Par ce texte, l'OLP reconnaissait enfin à Israël le droit d'exister, tandis qu'Israël reconnaissait dans l'OLP le représentant légitime du peuple palestinien et acceptait la création d'une autorité palestinienne qui exercerait un pouvoir limité mais significatif sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. En plus de donner à la Jordanie toute latitude pour suivre l'exemple de l'Égypte en concluant son propre accord de paix avec Israël, Oslo fournissait un cadre de travail pour la création ultérieure d'un État palestinien qui, dans l'idéal, coexisterait avec un État d'Israël sécurisé et en paix avec ses voisins. Mais les anciennes blessures, ainsi que la présence dans chaque camp de factions préférant la violence au compromis, se révélèrent insurmontables. Rabin fut assassiné par un extrémiste de la droite dure israélienne en 1995. Le travailliste Shimon Peres le remplaça pendant 7 mois, mais perdit l'élection anticipée contre le Likoud, le parti d'extrême droite, et son chef Benjamin Netanyahou, surnommé Bibi, qui avait auparavant prôné l'annexion totale des territoires palestiniens. Mécontente des accords d'Oslo, des organisations plus intransigeantes comme le Hamas et le djihad islamique palestinien commencèrent à saper la crédibilité d'Arafat et de son parti, le Fatah, auprès des Palestiniens, et appelèrent à la lutte armée pour reprendre les territoires arabes et repousser Israël dans la mer. Après la défaite de Netanyahou à l'élection de 1999, son successeur travailliste, Ehud Barak, tenta d'enraciner la paix au Moyen-Orient en ébauchant notamment une solution à deux États qui surpassait toutes les précédentes propositions israéliennes. Mais Arafat exigea davantage de concessions et les pourparlers s'envenimèrent. En parallèle, un jour de septembre 2000, le chef du Likoud, Ariel Sharon, organisa avec un groupe de parlementaires juifs une visite volontairement provocatrice et très médiatisée d'un des sites les plus sacrés de l'islam, le Mont du Temple à Jérusalem. Cette manœuvre visant à affirmer les revendications d'Israël sur l'ensemble du territoire remettait en cause le leadership d'Ehud Barak et provoqua la colère des Arabes du monde entier. 4 mois plus tard, Sharon devint premier ministre et débuta ce qui fut appelé la deuxième intifada. 4 années de violence entre les deux camps, marquées par des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc contre des manifestants qui lançaient des pierres, des attentats suicides palestiniens devant une boîte de nuit israélienne et dans des bus transportant des personnes âgées et des enfants, des représailles sanglantes de Tsahal et l'arrestation aveugle de milliers de Palestiniens, et des roquettes tirées par le Hamas depuis Gaza sur des villes frontalières israéliennes auxquels des hélicoptères de combat Apache fournis par les États-Unis répondirent en rasant des quartiers entiers. Environ 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens, y compris des dizaines d'enfants, trouvèrent la mort durant cette période. Et lorsque les violences retombèrent en 2005, les perspectives de résolution du conflit étaient bien différentes. Le gouvernement Bush, concentré sur l'Irak, l'Afghanistan et la guerre contre le terrorisme, n'avait plus beaucoup de temps de cerveau disponible pour s'occuper de la paix au Moyen-Orient. Et si Bush demeurait officiellement favorable à une solution à deux États, il rechignait à faire pression sur Sharon. En surface, l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe continuaient à soutenir la cause palestinienne. Dans les actes, ils cherchaient de plus en plus à brider l'influence de l'Iran et à éradiquer les extrémistes qui menaçaient leur régime. Quant aux Palestiniens, ils s'étaient divisés après la mort d'Arafat en 2004. Gaza passa sous le contrôle du Hamas et fut bientôt verrouillée par un blocus israélien, tandis que l'autorité palestinienne, émanation du Fatah qui continuait à gouverner en Cisjordanie, commençait à être taxée d'incompétence et de corruption, même par certains de ses partisans. Et surtout, Israël avait durci sa posture à l'égard des pourparlers de paix, en partie parce que la paix ne lui semblait plus aussi essentielle à sa sécurité et à sa prospérité. L'Israël de 1960, qui restait gravé dans les esprits, avec ses kibboutz et ses rationnements fréquents, s'était transformé en une puissance économique moderne. Ce n'était plus le courageux David encerclé par des Goliaths hostiles. Grâce à des aides militaires américaines s'élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars, ses forces armées étaient désormais sans égale dans la région. Les attentats terroristes sur le territoire israélien avaient pratiquement cessé, du fait d'un mur de plus de 600 km de long construit entre Israël et les centres de population cisjordaniens, et ponctué par des checkpoints stratégiquement placés permettant de maîtriser le flot de Palestiniens qui allaient et venaient. De temps à autre, une roquette tirée depuis Gaza continuait à frapper les villes frontalières israéliennes, et la présence de colons juifs en Cisjordanie provoquait parfois des échauffourées mortelles. Mais pour la majorité des habitants de Jérusalem ou de Tel Aviv, les Palestiniens demeuraient largement invisibles et leurs problèmes et rancœurs étaient ennuyeux, mais lointains. Au vu de tout ce qui m'attendait déjà quand je suis devenu président, il aurait été tentant de tout faire pour maintenir le statu quo, de me contenter d'étouffer les flambées de violence entre factions israéliennes et palestiniennes et de ne toucher à rien d'autre. Mais considérant la situation étrangère dans son ensemble, je ne pouvais pas suivre cette voie. Israël restait un allié essentiel des États-Unis, et bien que les menaces aient diminué, il subissait toujours des attaques terroristes mettant en péril la vie de ses citoyens, mais aussi celle des milliers d'Américains qui y résidaient ou y voyageaient. Cela étant, pratiquement tous les pays du monde jugeaient que, en occupant les territoires palestiniens, Israël enfreignait le droit international, et nos diplomates se retrouvaient contraints de faire le grand écart en défendant Israël pour des actes auxquels nous nous opposions par ailleurs. Il devait aussi expliquer comment nous pouvions faire pression sur la Chine ou l'Iran à propos des droits fondamentaux, alors que nous paraissions bien peu nous soucier de ceux des Palestiniens. Et pendant ce temps, l'occupation israélienne continuait à révolter la communauté arabe et à alimenter le sentiment anti-américain dans tout le monde musulman. En d'autres termes, l'absence de paix entre Israël et les Palestiniens constituait un risque pour les États-Unis. Dans ce contexte, négocier une solution acceptable par les deux camps améliorerait notre situation sécuritaire, affaiblirait nos ennemis et nous rendrait plus crédibles en défenseurs des droits fondamentaux. D'une pierre, trois coups. Du reste, le conflit israélo-palestinien m'affectait aussi personnellement. L'instruction morale que j'avais reçue de ma mère était axée sur l'Holocauste, un drame inimaginable qui, à l'instar de l'esclavage, prenait ses racines dans l'incapacité ou le refus de reconnaître l'humanité de l'autre. L'histoire de l'Exode s'était gravée dans mon cerveau, comme dans celui de nombreux jeunes Américains de ma génération. À 11 ou 12 ans, j'avais une vision idéalisée d'Israël, décrit par un animateur de colonie de vacances qui avait vécu dans un kibboutz, comme un endroit où tous les habitants étaient égaux et travaillaient ensemble, et où chacun était le bienvenu pour œuvrer à améliorer le monde en partageant les joies et les difficultés. Au lycée, j'avais dévoré les romans de Philip Ross, Saul Bellow et Norman Mailer, ému par ces personnages qui tentaient de trouver leur place dans une Amérique qui ne voulait pas d'eux. À l'université, en étudiant les débuts du mouvement pour les droits civiques, j'avais été intrigué par l'influence de philosophes juifs tels que Martin Buber sur les sermons et les écrits du révérend King. J'avais remarqué avec admiration que, de manière générale, les électeurs juifs étaient plus progressistes que tous les autres groupes ethniques ou religieux. Et à Chicago, une partie de mes amis et soutiens les plus fidèles étaient issus de la communauté juive. J'étais convaincu qu'il existait un lien fondamental entre le vécu des Noirs et celui des Juifs, une histoire faite d'exil et de souffrance que pourrait réparer à terme une même soif de justice, une compassion plus profonde et une solidarité communautaire accrue. Pour toutes ces raisons, je défendais vivement le droit des Juifs à avoir leur propre État, même si, ironie du sort, ces valeurs que nous partagions m'empêchaient aussi d'ignorer les conditions dans lesquelles étaient forcés de vivre les Palestiniens des territoires occupés. Il est vrai qu'Arafat avait souvent employé des tactiques abjectes. Il est vrai que les dirigeants palestiniens avaient laissé passer trop d'occasions de faire la paix. Il n'y avait pas eu de Gandhi ou de Havel dotés de la force morale nécessaire pour insuffler un mouvement non violent capable de faire basculer l'opinion israélienne. Toutefois, cela n'enlevait rien au fait que des millions de Palestiniens étaient privés de leur droit à l'autodétermination et de tant d'autres droits dont jouissaient même des populations de régimes non démocratiques. Des générations entières grandissaient dans un monde affamé et circonscrit sans pouvoir s'en échapper, menant une vie soumise aux caprices d'une autorité lointaine et souvent hostile, ainsi qu'à la suspicion des hommes en armes, au visage froid, qui contrôlaient leurs papiers à chaque checkpoint. Lorsque j'ai pris mes fonctions, la plupart des républicains du Congrès avaient cessé de faire semblant de s'intéresser au sort des Palestiniens. Au contraire même, une importante majorité des protestants évangéliques blancs, le réservoir de voix républicaine le plus consistant, pensait que la création et l'expansion progressive d'Israël réalisaient la promesse faite par Dieu à Abraham et annonçaient le retour du Christ. Quant aux démocrates, même les plus progressistes redoutaient de paraître moins pro-Israël que les républicains, Et du reste, une bonne partie d'entre eux étaient juifs ou représentaient des circonscriptions abritant une importante population juive. En outre, les membres des deux partis préféraient éviter de s'attirer les foudres de l'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, un puissant lobby transpartisan qui veillait à ce que les États-Unis continuent de soutenir inconditionnellement Israël. L'AIPAC pouvait exercer son influence sur presque tous les districts du pays, et pratiquement tous les politiciens de Washington, moi compris, en comptaient des membres parmi leurs plus importants soutiens et donateurs. Autrefois, l'AIPAC hébergeait en son sein une pluralité d'opinions concernant la paix au Moyen-Orient, et il avait pour ligne de conduite que les politiciens cherchant son soutien devaient apporter le prolongement de l'aide américaine et s'opposer aux tentatives d'isoler ou de condamner Israël par l'intermédiaire de l'ONU et autres organismes supranationaux. Et puis la politique israélienne s'était décalée sur la droite, et le sommet de l'organisation avait suivi le mouvement. L'AIPAC avait commencé à prôner un renforcement de l'alliance entre les gouvernements américains et israéliens, même lorsque les agissements du second entraient en contradiction avec la politique du premier. Les parlementaires qui critiquaient Israël un peu trop fort risquaient de se voir qualifiés d'anti-Israël et éventuellement d'antisémites, et de découvrir en face d'eux, à l'élection suivante, un adversaire pourvu d'un budget confortable. Je n'avais pas été épargné pendant ma campagne présidentielle, et mes soutiens juifs avaient dû, dans les synagogues et les chaînes d'email, démentir les allégations selon lesquelles je n'étais pas assez chaudement pro-Israël, voire que j'y étais carrément hostile. Selon eux, ces ragots n'étaient pas dus à une position quelconque, comme les autres candidats, je défendais une solution à deux États et condamnais les colonies israéliennes, mais au fait que j'exprimais un souci pour le peuple palestinien et que j'avais parmi mes amis plusieurs détracteurs de la politique israélienne, notamment Rachid Khalidi, militant d'origine palestinienne et historien spécialiste du Moyen-Orient. Au fait aussi que, pour reprendre les mots de Ben Rhodes, « Vous êtes noir, vous avez un nom musulman, vous avez habité dans le même quartier que Louis Farrakhan et vous avez fréquenté la paroisse de Jeremiah Wright. » J'ai finalement recueilli 70% des votes juifs, mais aux yeux de nombreux membres du conseil d'administration de l'AIPAC, je demeurais suspect, un homme aux allégeances multiples, une personne qui, selon l'expression colorée d'un ami d'Axe, ne soutenait pas Israël avec ses kishk, ses tripes en yiddish.